Bonjour, voici un nouveau message de la part du Seigneur pour vous. Prions que vraiment Dieu vous éclaire et Dieu vous montre la gravité, le sérieux de ces choses. Je le demande, Père, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Je voudrais qu'on lise dans Éphésiens chapitre 1, versets 3 à 6, s'il vous plaît. Éphésiens 1, 3 à 6. Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ qui nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Christ. Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irréprochables devant lui. Il nous a prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ selon le bon plaisir de sa volonté pour célébrer la gloire de sa grâce dont il nous a favorisés dans le bien-aimé. Amen. La grâce, on entend souvent parler de la grâce, mais en fait, qu'est-ce que c'est la grâce? Ben, mes frères et sœurs, la grâce, c'est l'amour de Dieu en action. La grâce, c'est quand Dieu nous donne gratuitement ce dont vous avez besoin, quand Dieu vous donne gratuitement ce dont vous avez besoin, même si vous ne le méritez pas. Ça, c'est la grâce. Et c'est très beau d'y penser, c'est très beau d'y croire. C'est très beau de croire que Dieu vous a fait grâce, c'est bien, c'est bien. Mais il est une chose que nous devons absolument intégrer à notre christianisme. C'est que Jésus attend de nous que nous fassions aux autres ce qu'il a fait, ce qu'il nous a fait. On oublie trop souvent que le grand but de Jésus, c'est notre apothéose. Apothéose. J'ai demandé à plusieurs personnes autour de moi, savez-vous ce que signifie le mot apothéose? Alors on m'a dit toutes sortes de choses qui allait un peu dans le bon sens, mais le mot apothéose signifie devenir Dieu. Alors je répète que trop souvent on oublie le grand but de Jésus qui est notre apothéose, c'est-à-dire il veut que nous devenions des êtres divins, nous sommes appelés à être des divins, à être l'épouse divine du Seigneur. C'est pour ça qu'on a des épreuves, c'est pour ça qu'on a des choses qui nous arrivent, des difficultés, pour que nous apprenions à nous discipliner, à discipliner notre être, notre âme, pour qu'elle tende vers cette perfection. Comme Dieu a fait, nous devons faire, parce que comme Dieu est, eh bien nous devons être. C'est à ça qu'on tend. L'apôtre Paul dit, je prétends pas avoir encore atteint la perfection, mais oubliant ce qui est en arrière, je cours vers le but. Alors il ne s'agit pas en tant que disciple de Jésus-Christ de discutailler sur ce sujet. On ne discutaille pas. C'est notre vocation. Nous avons été appelés à ça dès avant la fondation du monde, mes frères et sœurs. C'est ce que nous venons de lire. On a tous dit Amen. C'est ce que nous venons de lire. Il nous a choisis dès avant la fondation du monde pour ce grand but. Je suis en train de lire en ce moment un livre qui concerne les francs-maçons. Quand une personne entre en franc-maçonnerie, ça ne badine pas, hein. Il y a toute une initiation, il y a des cérémonies, des rites qui ont tous pour but de faire comprendre à celui qui veut devenir un franc-maçon que c'est du sérieux. Par exemple, il vous cite Abraham, n'est-ce pas, qui a offert son fils unique en holocauste pour montrer sa soumission à Dieu. Vous voyez, c'est quelque chose, on doit être vraiment des gens soumis, n'est-ce pas, à l'être suprême, comme ils disent, hein. Il y a toute une mise en scène, alors et toutes ces mises en scène, tous ces rites, ça a pour but de faire prendre conscience au candidat, à celui qui veut devenir franc-maçon, qu'il s'engage pour la vie, que c'est pas une rigolade, c'est pas un truc du dimanche, voilà, c'est des rituels qui sont des symboles qui révèlent des réalités à celui qui est initié, à celui qui a appris. Vous êtes des initiés dans l'Église de Jésus-Christ parce que vous avez appris les choses, vous êtes des initiés. Eux, ils ont leur initiation à eux. Alors on leur fait comprendre que leurs jours sont comptés sur la terre. Pourquoi? Mais pour qu'ils parviennent à saisir l'importance de vivre une vie d'honneur, d'intégrité, une vie dévouée aux autres, Voilà pourquoi on leur dit voilà, que si tu trahis, tu mérites la mort, tu vas mourir, etc. On leur dit que s'ils révèlent, par exemple, les secrets qu'on va leur enseigner, les choses qui vont être dites là en famille, entre eux, eh bien, ils vont être mis à mort. Est-ce que vraiment ils vont le faire? Est-ce que vraiment ils vont mettre à mort les gens? Je ne pense pas, hein, j'ai jamais entendu dire en France qu'on a retrouvé des francs-maçons qui... Enfin, j'en sais rien, mais bien sûr, je ne pense pas qu'ils tuent les gens qui se retirent de leur association. Mais les rites sont dramatiques, c'est-à-dire que c'est fait d'une façon dramatique pour que le futur franc-maçon, celui qui s'engage, se rende compte que ses vœux sont inaliénables. Pourquoi ? Ben, c'est pour lui rappeler que son honneur et sa parole, c'est en vérité ses seules richesses. Et mes frères et sœurs, c'est exactement la même chose pour nous. Votre honneur et votre parole d'homme, votre parole de femme, c'est votre seule richesse. Quand vous avez donné votre parole. Mes frères et sœurs, que pensez-vous de Jésus? Que pensez-vous que Jésus attend de vous? Pensez-vous que les rites chrétiens sont un amusement pour le dimanche? Le baptême, votre baptême, représente votre mort. On vous a fait disparaître de la surface de la terre des vivants, on vous a plongé dans l'eau. Et quand vous êtes sorti, c'était pour célébrer une nouvelle vie qui allait commencer où? Dans l'Église de Jésus-Christ. Et l'Église de Jésus-Christ, qu'est-ce que c'est? C'est la société de Jésus-Christ. Jésus a dit, je bâtirai mon Église. Ça veut dire qu'il y a d'autres églises. Il y a l'Église des francs-maçons, par exemple. Il y a l'Église des témoins de Jéhovah. Il y a l'Église de ceci, il y a l'Église de cela. Mais lui, il a son Église à lui. C'est-à-dire l'assemblée de son peuple. C'est ça que ça veut dire Église. Assemblée de mon peuple. Pensez-vous que se faire baptiser n'est pas sérieux? C'est l'acte symbolique de votre mort. Ce qui concerne votre mort au sujet de ce qui est dans le monde, la façon de penser dans le monde, la façon d'agir, de réagir dans le monde. Vous disparaissez de la surface de ce monde et par votre choix, vous montrez, en vous en plongeant dans l'eau, que vous vous engagez ensuite à vivre dans le peuple assemblé de Jésus. Peuple qui a un roi tout puissant, qui a droit de vie et de mort sur vous, ça ne plaisante pas. Et dans ce peuple, il y a toute une hiérarchie, il y a des ministres, il y a des pouvoirs, vous avez des devoirs, on n'agit pas n'importe comment. Il y a des règles auxquelles vous êtes contraints d'obéir dans le peuple de Dieu. Évidemment, beaucoup de gens maintenant n'aiment plus obéir, ils ne veulent plus faire partie du peuple de Dieu, alors ils vont n'importe où, ils font n'importe quoi, ils pensent que d'aller écouter un sermon de Michel Jonton sur Internet, ça suffit. Non! Ils pensent que regarder un culte à la télévision, ça suffit. Non! Ce n'est pas ça l'Église de Jésus-Christ. Ça peut aider les gens à aller à l'Église, mais ça n'est pas l'Église. L'Église, c'est le peuple assemblé de Dieu. Vous n'êtes pas assemblé, vous êtes devant votre ordinateur, devant votre radio. Vous devez être assemblé en communion fraternelle avec des vrais gens. C'est un engagement. Ce n'est pas du n'importe quoi. Il est question là d'une alliance sacrée, inaliénable. Faites cette alliance avec le Dieu créateur, sauveur, oui, mais maître aussi, maître. Et cela concerne, cette alliance, votre éternité. C'est bien plus important que le cérémonial des francs-maçons, qui pourtant semble dramatique. Ensuite, vous avez la Sainte Cène. C'est morbide, c'est affreux quand on y pense. On pourrait très bien être critiqué. D'ailleurs, dans les premiers temps de l'Église, les gens disaient « Les chrétiens sont des cannibales qui mangent la chair de leur Dieu. » Pensez-vous que ce soit juste un rite sans grande importance ? Paul dit que pour avoir pris la Sainte Cène indignement, plusieurs sont tombés malades et même certains sont morts. Ah, si c'est moi qui prêche ça, on va dire « Michel, tu fais des menaces, tu dois prêcher l'amour. » Avec les petits oiseaux. Hein? Non, on n'est pas chez Blanche-Neige là. Pensez-vous que le pain et le vin ne sont que des symboles? Vous avez raison, ce sont des symboles, mais des symboles qui cachent quelque chose, qui cachent aux yeux des incroyants quelque chose, mais qui, à nous, qui sommes des initiés, qui avons appris, ça nous révèle de grandes choses. Ça nous révèle que le sang de Jésus a vraiment coulé et que Jésus a vraiment dans son vrai corps souffert atrocement, que son corps a vraiment été offert en sacrifice, ça n'était pas une plaisanterie. Et que nous nous engageons à vivre en suivant un homme qui s'est laissé crucifier par amour pour nous. On ne peut pas prendre ça à la légère, n'est-ce pas? Mais pourquoi? Parce que la grâce de Dieu, nous revoilà à la grâce, parce que la grâce de Dieu, c'est le don immérité de Dieu à chacun de nous. Parce que la grâce de Dieu, c'est le don immérité que Dieu nous fait si nous croyons en sa grâce. Celui qui croit en Jésus-Christ en sa grâce ne s'appartient plus à lui-même, mais il appartient à Dieu. En général, les gens disent « voilà, moi j'appartiens à Dieu ». Mais quand on appartient à Dieu, c'est en tant que membre du peuple de Jésus, membre de la société de Jésus, membre actif de l'Église de Jésus-Christ, et pas du n'importe quoi. Le corps de Christ doit pouvoir compter sur vous dans tous les domaines. Et nous ne nous appartenons plus, nous devons nous conformer aux exigences de celui qui nous a fait cette grâce. Et une de ces exigences, la plus importante, c'est que nous tendions de toutes nos forces à l'apothéose, à devenir comme lui. Comme il nous a graciés, nous devons gracier. Comme il nous a aimés, nous devons aimer, sans condition. Dieu a tant aimé, soit qu'il s'est engagé à fond jusqu'au sacrifice de la croix. Et notre part dans cette alliance, qui a été faite en son sang à la croix, c'est la soumission aux règles qu'il a imposées, lui, et qu'on trouve dans la Bible. En ce moment à Paris, j'entendais ça à la radio cet après-midi, en ce moment à Paris, il y a une pièce qui se joue, une pièce de Sacha Guitry qui s'appelle Désiré. Je crois que je vais aller la voir, je l'ai vue il y a longtemps, je crois que je vais aller la voir, c'est très inspirant, c'est très drôle aussi parce que Sacha Guitry a beaucoup d'humour, mais c'est l'histoire d'un serviteur dans une maison de riches, n'est-ce pas, voilà. C'est un homme qui aime, un vrai serviteur, c'est quelqu'un qui aime être au service de ses employés. S'il n'aime pas, c'est un mercenaire. S'il n'aime pas être au service, c'est un mercenaire. C'est quelqu'un qui travaille pour le pognon. C'est quelqu'un qui se soumet pour le pognon. Un vrai serviteur, il aime être au service de ses employeurs. Il aime servir. Il aime faire ce qu'on lui dit de faire. Il ne conteste pas. Il aime faire ce qu'on lui dit de faire. Alors on entend souvent au sujet d'un tel ou d'un tel, ah ça c'est un grand serviteur de Dieu, ah bon? C'est quoi un grand serviteur de Dieu? Regardons un peu ce que Jésus dit. Eh bien c'est celui qui prend la dernière place. Vous voyez, ce qui est grand aux yeux des gens, c'est pas forcément grand aux yeux de Dieu. On a lancé cette mode d'employer les mots et les termes n'importe comment. N'importe comment. On va à la banque, par exemple, on dit « je vais faire un prêt ». Non, je vais faire un emprunt. C'est la banque qui vous prête et vous, vous empruntez. Vous ne dites pas « je vais faire un prêt ». C'est la banque qui vous fait un prêt, d'accord? Vous voyez, on se trompe souvent. On n'emploie pas les mots d'une façon correcte. Par exemple aussi, le terme « serviteur de Dieu ». Qui est serviteur de Dieu? Toute personne qui se soumet de cœur à son maître, dans son église, dans sa société, dans son église qu'il a créée, dans celle qu'il conduit comme un troupeau. C'est un troupeau. Et comme je vous l'enseignais, un serviteur qui aime son maître, qui aime servir dans l'église, c'est ça, aimer son maître. C'est être là où le maître veut, et le maître veut, c'est dans l'église. Eh bien, celui-là, il va entrer, celui qui aime être au service dans l'église, il va entrer dans le cercle des amis de Jésus. Là, je vous ai prêché ça il n'y a pas longtemps. Et il y a des degrés. Il y a des degrés. Alors, vous savez, je lisais dans ce bouquin au sujet des francs-maçons, il y a la première loge, la deuxième loge, et le 33e degré, c'est le summum du sommet du masque et tout. Ouais. Mais ils n'ont rien inventé. Hein. Jésus-Christ, dans son église, il y a de l'ordre, il y a des degrés. Ils nous ont copiés. C'est nous qui avons la vérité. Premièrement, il y a des apôtres. Ça, c'est Paul qui dit, hein, dans 1 Corinthiens 12, 28. Premièrement, dans l'Église, il y a les apôtres. Qui est l'apôtre de ton Église? Dis un nom. Comment s'appelle l'apôtre de ton Église? Ton assemblée. Hein? Qui est le fondateur, l'inspirateur, l'envoyé de Dieu pour te donner la direction? C'est ça, un apôtre. Pour moi, c'est simple, je sais qui c'est. C'est mon frère Osborne. C'est lui l'apôtre. C'est lui qui était l'inspirateur, c'est lui qui a donné la direction. J'ai parlé avec lui, je parle avec lui. Nous nous écrivons. Je suis soumis à sa façon de penser et d'agir. Je ne veux pas sortir de là. Bon, ça c'est pour vous donner un exemple. Puis secondement, l'apôtre Paul dit, viennent les prophètes. Qui est ton prophète? Bon, tu es dans une église. Qui est le prophète là? Je ne parle pas de la sœur ou du frère qui a le don de prophétie, hein? Qui le dimanche dit, mon petit troupeau, ne regarde ni à gauche ni à droite, je ne parle pas de ça. Je parle de celui qui a le ministère, qui est ministre, qui est prophète en tant que ministre. C'est celui qui est ministre, qui est prophète, c'est à lui que vient la parole. La parole, elle vient toujours au prophète, elle ne vient pas à l'apôtre, elle ne vient pas au pasteur, elle ne vient même pas au docteur, elle vient au prophète. Jésus, il n'a pas été vers le grand Manitou là-bas. Jésus est allé vers le prophète, parce que le prophète, c'est lui qui présente la parole. Il est allé vers Jean-Baptiste qui a dit, voilà l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Il a montré le prophète. La parole, elle vient au prophète. Qui est ton prophète? Pour moi, c'est simple, c'est William Marion Branham. Tu ne l'aimes pas? C'est parce que tu ne connais pas. C'est parce que tu t'es fait des idées, parce que tu as entendu dire des choses, ou parce que tu as vu des branhamistes, ou je ne sais pas quoi, mais... Troisièmement, toujours l'apôtre Paul, il dit il y a des maîtres, ou dans d'autres versions, il y a des docteurs. Qui est ton docteur? C'est-à-dire, qui est ton enseignant? Attention, qui est ton enseignant, ça veut dire, au pied de qui t'assieds-tu pour écouter comme Marie écoutait? Moi, je sais qui c'est. Et puis, il y a d'autres degrés. Celui où se trouvent ceux qui font les miracles, il y a encore un autre degré en dessous, ceux qui ont des dons de guérison, et puis il y a ceux qui ont les aptitudes à gouverner, et puis il y a ceux qui parlent en langue, etc., etc. Enfin, vous voyez, vous verrez dans 1 Corinthiens 12, 28. Pensez-vous qu'on devienne apôtre d'un coup de baguette magique? Pensez-vous qu'on est prophète parce qu'on l'a écrit de notre propre volonté sur une carte de visite, ou parce que la dame du 28 nous a dit « Oh, ce que vous m'avez dit, ça s'est réalisé. À mon avis, vous devez être prophète. » Tout a un prix. Tout a un prix. Étudiez la vie des véritables prophètes de Dieu, vous allez voir. Étudiez la vie des apôtres de Dieu, vous allez voir. Regardez leur vie, leur début et leur fin, regardez. Tout a un prix. Jésus a payé le prix fort sur la croix et nous avons aussi un prix à payer. Le prix de notre propre sacrifice au sein du peuple de Dieu en tant que serviteurs. Tous à notre degré. N'exigeons pas plus des autres que ce que le Maître n'exige de nous-mêmes dans le degré où nous sommes. Frères et sœurs, voilà le monde de la grâce. Voilà le monde de la grâce. Ce n'est pas une plaisanterie créée pour charmantes dames bavardes ou pour messieurs superficiels. C'est un sacerdoce que nous avons à revêtir. Oh, les francs-maçons ont leurs rituels. Nous avons les nôtres qui sont beaucoup plus anciens. Oh, ils ont leur décorum. Nous avons le nôtre qui est beaucoup plus sacré. Ils ont leurs engagements. Nous avons le nôtre qui nous engage vis-à-vis de l'éternité, pour entrer dans cette éternité et demeurer dans cette éternité. Regardons un peu Jésus. Jésus, il y a 2000 ans, il exigeait de ses disciples le renoncement. De nos jours, plus aucun pasteur n'ose parler de cela en vue de conduire ses brebis au renoncement. Non, non. Alors, qu'est-ce que Dieu va faire? Eh bien, ainsi dit le Seigneur, je sais que vous n'avez pas réussi à être à la hauteur de mes valeurs parfaites. Tous ont péché, même dans ma société, même dans mon église. Chacun fait ce qu'il veut. Que vais-je faire? Il n'est pas question que ce genre d'état d'esprit entre dans mon paradis. Alors, il nous a fait grâce, mes frères et sœurs. Il nous a fait grâce. Il a annulé simplement et purement l'acte officiel, légal, qui établissait nos manquements à l'égard des ordres, à l'égard des commandements. Oui, mes frères et sœurs, il l'a effacé, annulé, en le clouant définitivement à la croix. Colossiens 2,14. C'est aussi pour toi qui es chrétien et qui fais ce qu'il veut. Maintenant, vous êtes sous la grâce parce que vous êtes chrétien, vous avez donné à Jésus-Christ votre vie, voilà. N'en profitez pas pour continuer à faire comme vous voulez, quand vous voulez, où vous voulez. Soyez reconnaissant et montrez à Dieu votre bonne volonté. Comment allez-vous pouvoir montrer à Dieu votre bonne volonté? Eh bien, en commençant par le commencement. Graciez ceux qui vous ont offensés. C'est là que Dieu a commencé, par nous gracier. Que voulez-vous d'autre? Que voulez-vous qu'il fasse d'autre? Graciez ceux qui vous ont offensés. Votre père, peut-être. Votre mère, peut-être. Un prêtre, peut-être. Quelqu'un de votre famille. Le téléphone est là, pas loin de vous. Dans quelques minutes, j'ai fini mon prêche. Prenez ce téléphone. Téléphonez à la personne qui vous a offensé. Et dites-lui, écoute, je détruis l'acte qui te condamne. Je le détruis. Je te gracie. Faites-le. Pardonnez comme Dieu vous a pardonné. C'est-à-dire de la même manière pour en arriver au même point, pour prouver son amour. Que Dieu vous bénisse. Il le fait gratuitement. Faites-le gratuitement. Que Dieu vous bénisse. Seigneur, je te demande de donner à mes amis, à mes frères et sœurs qui sont là et qui écoutent, une force par le Saint-Esprit pour faire ta volonté et qu'ils puissent atteindre cette perfection à laquelle nous sommes appelés à tendre. Tu nous as prédestinés dans ton amour à être tes enfants d'adoption par Jésus-Christ. C'est vrai que c'était ton plaisir. Et ton plaisir, c'était de pouvoir célébrer la gloire de ta grâce dont tu nous as favorisés. Ô mon Dieu, permets que nous puissions nous aussi être des distributeurs de grâce, des donateurs de pardon gratuit. Au nom de Jésus, je prie de tout mon cœur pour que cette année voie se lever un troupeau, une église nouvelle de gens qui sont sérieux dans leur engagement. Père, dans le nom de Jésus, amen et amen. Dieu vous bénisse. Dimanche, je vous apporterai un autre message, ou peut-être ce sera Alain, je ne sais pas, ça va dépendre un peu de la météo, si je vais pouvoir aller à Paris ou pas, je ne sais pas. Ici, au château, on est bloqué par la neige depuis 2 jours, on ne peut même pas sortir, c'est terrible, mais les enfants ne vont pas à l'école, les frères et sœurs ne vont pas travailler, on est là tous cloîtrés dans le château, et puis bon, mais c'est pas terrible, on a toute la nourriture qu'il nous faut, on a l'électricité, on a tout ce qu'il faut, et il fait chaud, tout va bien, mais voilà, on n'a jamais vu ça ici, de même moi, tous les vieux disent, on n'a jamais vu un truc pareil. On a de la neige comme c'est pas possible. Et puis comme la commune n'a pas le matériel nécessaire, alors eh bien nos routes ne sont pas dégagées. Voilà. Alors pourquoi je vous dis ça? Oui, je vous dis ça parce que je vous avais dit que j'irais prêcher dimanche à Paris chez le frère Alexandre. Et malheureusement, je pense que je ne pourrais pas aller parce que il paraît qu'il va encore neiger ce samedi et donc voilà, ben ça va encore être la cata. Donc je ne vais pas me risquer sur les routes comme ça. Donc que Dieu vous bénisse. Et alors, mais je sais pas si c'est Alain ou moi qui va prêcher dimanche. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde. Récoutez ce message et puis allez de l'avant. À bientôt. À bientôt.